Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Alléluia! Alléluia! Vous êtes content ce matin? Vous êtes content ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Je vois des gens qui sont plus ou moins joyeux ce matin. Vous êtes gelés ce matin ou vous êtes, on va se dégeler un peu, on va se lever un peu? On va juste un peu s'étirer ensemble, juste de quoi juste nous dégeler pour ceux qui sont gelés. Pour ceux qui ne sont pas gelés, on va aider ceux qui sont gelés. Okay? Alléluia! Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ta louange, je te remercie pour les cœurs des gens qui sont ici ce matin. Et Seigneur, il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on ouvre ta parole, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle d'espoir, de joie, une nouvelle qui réconforte. Et je te demande de préparer les cœurs dans ton nom tout-puissant et vous pouvez prendre place. Amen. 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 Je m'attends à beaucoup d'amen après ça. Mon message ce matin, c'est pourquoi me taire quand mon âme est accablée. Le pasteur Myriam disait ici, Seigneur, même si c'est moins 16, pourquoi me taire quand il fait moins 16 dans mon cœur? Hein? Donc, on va voir cela aujourd'hui. Marc 1, 40, 45, c'est le cœur de notre message. Mais Jésus a dit dans Jean 11, 25, 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Quelle bonne nouvelle! Le message pourrait s'arrêter ici. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, c'est une question que j'ai pour toi en commençant ce matin, parce que c'est premièrement une déclaration étonnante. Jésus fait une déclaration vraiment étonnante. Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est étonnant. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il est la résurrection et la vie, vous allez avoir peur de cette personne. L'Évangile de Jean contient sept grandes déclarations. On a « Je suis la lumière du monde »,« Je suis le bon berger » et celle-ci est la cinquième. « Je suis la résurrection et la vie ». Et dans l'Ancien Testament, dans Exode 3, 14, Moïse parle à qui? À « Je suis ».« Je suis » lui dit. Il lui donne son adresse, il dit qui il est. Le grand Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Il dit, quand on va te demander qui t'a envoyé, dis-leur, je suis. Le point d'interrogation que Moïse a eu quand il est allé partager le message, Moïse a vraiment été face à une impasse. Imaginez-vous, je reviens et je vous dis ce matin, déjà aujourd'hui on a l'autorité, on a la parole de Dieu, mais quand je vous dis, le Dieu m'a parlé, certains d'entre vous me regardent de manière sceptique. Et Moïse, quand il est allé devant le peuple, il a dit, « C'est je suis qui m'a envoyé. » Wow, quelle révélation. Je suis content aujourd'hui matin, vous croyez tous au grand je suis. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux promesses renversantes dans ce passage. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Quelle promesse! Deux promesses. Celui qui croit, vivra. Et quand même il serait mort, il vivra. Mais il y a une question saisissante, et c'est la question à laquelle nous allons aujourd'hui tenter de répondre. Et la question est celle-ci, crois-tu cela? Crois-tu cela? Et quelle est notre réponse? Pour certains d'entre nous, ce matin, c'est un oui, et c'est un oui à l'affirmatif. Pour d'autres, c'est non, et pour certains, c'est je ne sais pas. Avec Dieu, il y a juste deux réponses, oui ou non. Parce que la personne qui dit « je ne sais pas », c'est le chemin vers Dieu conduit vers sa résidence, qui est le royaume des cieux. Si je vous invite aujourd'hui chez moi et que je vous donne un plan, vous dites « je ne sais pas si je vais me rendre », c'est peut-être un non. Parce que la seule manière que je vais savoir si tu vas venir chez moi, c'est à l'heure du rendez-vous. Si je te vois, je sais que la personne qui avait dit « je ne sais pas », c'était un oui. Alors, c'est soit oui, soit non. J'espère que je ne vous ai pas trop mélangé avec ça. L'espoir de l'humanité déçue renaît lorsque Jésus la touche. Et son haleine fétide de lépreux devient saine par sa grâce. Allons ensemble dans Marc 1, 40, 45 et nous allons voir comment cet espoir renaît quand Jésus touche. Et ce matin, ma prière, en commençant ma prière dans la préparation, est Seigneur, touche chacune des personnes ici. Touche ton Église. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Ce texte se trouve aussi dans Luc 5, 12, 15. Dans Luc 5, 12, 15, Luc ira plus loin en disant « Cet homme était couvert de lèpre et ayant vu Dieu, il tomba sur sa face. » Dans Matthieu 8, 1 à 4, il est écrit « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. » Et ce matin, j'aimerais te proposer que mon âme peut proclamer, que mon âme peut crier, que mon âme peut célébrer Dieu, même quand elle est accablée, parce que, premièrement, la première condition de l'immortalité est la mort. Un lépreux est un homme couvert de lèpre. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été prendre des photos pour votre permis de conduite ou pour votre passeport. Et des fois, la première photo qu'on vous prend, surtout pour le permis de conduite, c'est une photo que vous aimez moins. On vous montre la photo et vous faites semblant de regarder à côté de vous pour voir si c'est quelqu'un d'autre. Et en tout cas, moi, ça m'est arrivé de le faire. Et des fois, il peut nous arriver de demander, est-ce que je peux avoir une autre photo? Est-ce que je pourrais faire une meilleure photo? Parce qu'on se prépare puis on veut quand même bien paraître sur notre permis de conduite ou sur nos photos pour le passeport. Et la réalité est que ces photos-là ne peuvent pas être retouchées. Le gouvernement s'attend à avoir des photos originales. Et vous savez, dans la misère de la vie et des fois, quand on fait face à la réalité de la vie, quand on est accablé, cet homme, ce lépreux, ne peut pas être retouché. Il est dans une situation de mort, une situation difficile. Son terrible mal avait atteint un paroxysme. Il était au stade terminal. Vous savez, il y a avoir des problèmes et avoir des problèmes. Cet homme est vraiment au creux de son problème. Cette maladie est une maladie qui te met de côté. Et cet homme devait reconnaître ce verset de Romains 2, 11 à la diapo 13 qui dit « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Pour approcher Jésus, cet homme devait croire qu'en Jésus, quelles que soient mes circonstances, il n'y a pas de favoritisme, quelle que soit ma réalité. Parce que très souvent, quand on est dans le fond du pit, dans le fond de notre circonstance, dans le fond de notre vie, on dit, « Mais Seigneur, est-ce que tu fais faveur juste aux autres? » Mais cet homme avait accepté, il avait réalisé que Dieu ne fait exception de personne. Et il a fait un acte courageux, un acte extravagant de la part du lépreux, car la lèpre était conçue. Oui, les symptômes de la lèpre, aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'un million de personnes encore qui meurent de lèpre, bien qu'on a tous les médicaments, toute la science. Il y a des lieux reculés encore où est-ce qu'il n'y a pas toute cette médecine, et nous savons toutes les injustices qu'il peut y avoir sur Terre, et où est-ce que plusieurs meurent. Et une des choses avec le bacille ou ce virus, le bacille de Hansen qui donne cette lèpre, c'est qu'à un moment, ta peau, au début, c'est juste tu perds la peau, mais à un moment, tu n'as plus de sensation avec tes nerfs, à tel point que tu peux lever un caillou et perdre un doigt. Et cette personne, même dans la tradition juive, on appelait à un moment ces gens-là des morts vivants. Vous irez voir dans Lévitique 13 et Lévitique 14, et c'est pour cela qu'on parle d'impureté. C'est carrément comme le péché. Vraiment, une belle analogie, c'est le péché. Le péché entre en nous et le péché peu à peu nous tue. Peu à peu vient et tout doucement, nous sommes déjà morts. nous mourons jour après jour. Et heureusement, nous allons voir la bonne nouvelle, mais ceci, pour vivre l'immortalité, il nous faut réaliser qu'il faut passer par la mort. La lèpre angoisse à tous les niveaux, physique, mental, social, religieux. Avoir la lèpre, c'est pire qu'être mort. C'est une torture. Tu ne peux pas aller adorer Dieu dans le temple. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer. Si quelqu'un rentre dans ce lieu et a juste, on sait qu'il a le H1N1 et commence à tousser à côté, on va perdre une couple de croyants. Ça, c'est la lèpre. C'est très contagieux. Et tu es rejeté par ta famille, par tes amis. Tu ne peux pas vivre dans le village. Et on dit même dans certaines études et certains rabbins du temps de Jésus, on a pu retrouver certains écrits, se vantaient de ne pas acheter des œufs sur la rue où un lépreux avait marché. Et il y avait une fierté à exclure les lépreux. Alors, tu es considéré maudit et impur. Tu n'as pas de crédibilité. Cette personne n'est pas née lépreuse. Peut-être qu'un jour, il était médecin. Peut-être qu'il était bien placé dans le gouvernement. Peut-être qu'il était même un pharisien. Qui sait? Et du jour au lendemain matin, sa vie change. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu commences à avoir des symptômes? Tu espères, tu pries. Non, ce n'est pas ça. Et là, le médecin te dit, non, c'est terminal. Et là, tu vas voir les pharisiens, parce qu'en ce temps-là, les pharisiens avaient non seulement ce pouvoir religieux, ce pouvoir politique, mais ils avaient aussi un pouvoir au niveau de la lèpre médicale. Il y avait certains pharisiens qui pouvaient regarder et voir les symptômes et dire, oui, cette personne, on va l'exclure pour pouvoir protéger ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ne sont pas infectés. Nous allons voir aussi, dans quelques instants, une vidéo qui va montrer, j'ai voulu vous montrer, il y a d'autres formes de lèpre. Il y a peut-être des maladies terminales aujourd'hui, mais il y a aussi la lèpre. Il y a des gens qui vivent l'exclusion parce qu'ils ont vécu certains abus, que ce soit des abus dans la famille, que ce soit des abus au travail et que ce soit des abus en couple. Et j'aimerais qu'on passe la vidéo. Merci à nos techniciens en arrière.
Derrière cette porte, deux femmes témoignent. Nous les appellerons Nicole et Sophie. La première a été victime d'harcèlement moral.
Ça se passait par une sorte d'exclusion, des critiques permanentes, des moqueries, des... Et une exclusion, le chef qui vous parlait pas pendant 15 jours, les autres qui disaient du mal de vous. J'ai craqué quand j'ai voulu me suicider aussi dans les toilettes de l'endroit. Et puis je me suis dit, mais je vais quand même pas leur laisser ma peau à tous ces crétins. Ma vie veut autre chose. Enfin, elle a un sens en dehors de cet emploi et de ces gens. Voilà, je veux vivre. La hiérarchie, de toute façon, consent à ces choses parce que pendant que les gens en dessous, entre guillemets, pendant que les subalternes s'étripent, eux, ils sont tranquilles. Donc, moi, je dis que les hiérarchies consentent à la maltraitance et au harcèlement de leur personnel.
Sophie souhaite aussi briser le silence. Dès les premières années de sa vie, elle a été victime d'inceste sexuel.
J'étais dans un lit à barreaux, en fait. Donc, dans un lit à barreaux, on y reste à peu près jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Jusqu'à ce que j'ai 12 ans, c'est-à-dire l'arrivée des règles, en fait. Nous, on a vécu ça. Donc, mon père, c'était mon père qui faisait ça avec avec donc ma mère qui était là, qui était présente. Donc moi j'ai vécu des scènes de viol collectives avec mon frère, donc avec ma mère qui était dans la chambre. Donc ma mère était alcoolique aussi, donc ça aidait pas quoi. Et voilà, ça a duré jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Et moi d'extérieur on avait l'impression qu'on me protégeait vachement et que j'étais un peu entre guillemets la chouchou. Mais en fait en dessous c'était pas du tout ça quoi, tout ça c'était bon. Mais ma mère, je pense qu'elle m'aimait, même si son rapport à l'affectif était perverti, quoi. c'est sûr. Après, mon père aussi, je sais pas, mon père c'est particulier. J'ai un peu de la peine à répondre à cette question. Je sais pas, pendant des années, en fait, j'ai cru qu'il allait me demander pardon.
L'association Anessienne aux victimes accompagne et aide les personnes à trouver les bons soutiens.
La personne qui s'est exprimée sur le harcèlement moral, elle a parlé de la peur, elle a parlé du rejet, elle a parlé de l'exclusion. Et c'est exactement ce que les gens vivent lorsqu'ils sont victimes de harcèlement moral. En ce qui concerne le deuxième témoignage, il est aussi très révélateur parce que cette peur, cette fameuse peur qui est dans l'estomac, elle bloque l'énergie. Elle génère un instinct de survie et c'est tout. Et la majorité des personnes sont dans cette survie et donc n'osent pas en parler parce qu'elles se disent « il faut déjà que je survive au jour, il faut que je vive au quotidien ce que je suis en train de subir ». Et donc c'est très représentatif de maltraitance.
Derrière cette porte, deux femmes témoignent.
On peut passer à la prochaine.
Nous les appellerons Nicole et Sophie.
Elle est entrée de Jean-Loup, merci. J'ai montré ces exemples juste pour montrer que la lèpre, ce n'est pas seulement une maladie de peau. Des fois, il y a des choses qu'on a vécues dans nos vies. À qui tu vas parler quand tu vis une circonstance comme ça, une circonstance d'abus, que ce soit d'abus à la maison, d'abus. Et j'aimerais te dire qu'il y a un lieu, il y a une place. Il y a un sauveur, un Seigneur à qui tu peux venir, avec qui tu peux t'avancer et dire, « Seigneur, écoute, je suis mort. Je suis mort en dedans. Regarde-moi, regarde ma lèpre. » Et Jésus était proche. Jésus approchait les gens. Jésus regardait même celui qui était rejeté par toute la ville. Cette personne s'approche avec sa mortalité, avec sa réalité. Elle ne pouvait pas cacher cette réalité de lèpre. Et ça a pris beaucoup de courage de venir montrer cette mort devant Jésus, comme pour ces dames, de venir montrer ce qui se passe. Et le défi, c'est quoi? C'est que le religieux, lui, il protège le confort. Le religieux, quand on entend des choses comme celle-là, quand on voit un lépreux au temps de Jésus, le pharisien, ce qu'il pensait, c'est qu'on doit protéger, les gens de la synagogue, on doit protéger les gens à Jérusalem. Le religieux, c'est ça. Le religieux, on veut protéger ceux qui vont bien. On protège le confortable. Mais Jésus et notre appel en tant que chrétien, c'est quoi? C'est donner le confort aux pécheurs. On veut donner le réconfort aux pécheurs. Pour cette ville, pour Ottawa, en tant qu'Église, on veut donner le confort aux pécheurs. On veut que des gens qui ont vécu ce qu'on vient d'entendre, on veut qu'ils rentrent ici et on veut qu'ils rentrent en force. Et on sait que notre Dieu est un Dieu qui restaure, qui transforme. Et je croyais avoir des « Amen » ici, mais là, je vous oblige de dire un « Amen ». Et c'est ce qu'on veut voir. Le pasteur Claude Hood de l'Église Nouvelle Vie dit ceci, il dit « Jésus est venu afin d'affliger les confortables et de consoler les affligés ». Et je crois qu'en tant qu'Église, on doit saisir cette citation. Parce que si Jésus est venu, les pharisiens étaient confortables. Les pharisiens, ils regardaient ce peuple qui mourait, ils regardaient ce lépreux qui avait sa lèpre, et tout ce qu'on pouvait penser, c'est « OK, on doit l'isoler, on doit le mettre en quarantaine ». Je vois Jésus comme un docteur scientifique en train de rechercher quel est le remède. Je vois Jésus cette femme. Il y a un besoin présentement. Il y a une jeune dame qui vient ici à l'église, qui vient d'avoir un enfant. Et l'église, vous savez, en décembre, ensemble, nous avons participé à nourrir 20 familles ici dans la communauté. Cette femme a eu son enfant par césarienne et cette femme a besoin de transport cette semaine. Elle a besoin de personnes comme nous qui sont capables de dire, écoute, on va t'emmener, on va juste t'emmener à l'hôpital. Ça n'engage rien. Juste, écoute, je t'emmène à l'hôpital. Elle a besoin de personnes qui disent, écoute, moi j'ai trop de lasagne à la maison. Écoute, moi je vais t'emmener de la lasagne. Puis allez voir Viviane, parce que c'est ça qu'on veut voir. Viviane, il y a plusieurs familles qui contactent Viviane, mais ça, c'en est une. Et c'est ça, être chrétien. C'est sortir de notre confort. Tu me dis, mais pasteur, j'ai pas le temps. On n'a tous pas le temps. Le pasteur n'a pas le temps non plus. Mais le pasteur donne de son temps. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, donne de ton temps. Donne de ton temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Jésus avait compris cela. Et c'est pour cela que Jésus est venu afin d'affliger les confortables. Pourquoi il les afflige? Afin qu'ils deviennent confortables en donnant. Parce que quand tu donnes, quand tu es affligé, quand tu es confortable, tu vas commencer à donner. Tu vas sortir de ta zone de confort. Et les pharisiens, comme Nicodème, qui ont été en quelque part ébranlés, ont décidé de donner d'eux-mêmes. Et quand ils ont décidé de donner d'eux-mêmes, ils ont vu le miracle de la croix. Un homme, une femme qui vit dans le péché est mort pour Dieu. Il est déshérité de l'amour et de la paix du ciel, mais le ciel décide de venir vers cet homme et vers cette femme. Alors, si le ciel a décidé de venir vers cet homme et cette femme, je crois que nous, en tant qu'Église, nous devons décider d'aller vers ceux qui sont déshérités. Jésus a dit dans Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu chercher ceux qui sont bien. Diapo 18, Jésus a dit, ce que Jésus a entendu, il a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Des pécheurs. Et c'est notre appel. C'est notre appel en tant qu'Église. C'est notre appel en tant que chrétien. C'est notre appel en tant que disciple de Jésus. Seigneur, donne-moi. Seigneur, interpelle-moi. Seigneur, ouvre mon oreille, ouvre mes yeux. Seigneur, touche mon cœur envers celui, le débonnaire, celui qui n'a rien. On est allé dans le centre-ville avec quelqu'un ici, puis on avait quelqu'un qui nous a demandé de l'argent. Et on n'avait pas d'argent. On n'avait vraiment pas d'argent. On a dit à la personne, écoute, on n'a pas d'argent. Et la personne, dès qu'on lui a dit qu'on n'avait pas d'argent, elle a réagi de manière agressive. Mais moi et la personne avec laquelle on était dans le centre-ville, on a loué, on a eu un moment de louange. On a dit, écoute, c'est triste ce qui lui arrive. Certainement, il voulait de l'argent pour acheter de la drogue. Mais au lieu de dire, écoute, là, on ne va pas donner à... Non, on a pris ceci pour un moment. Un moment où est-ce qu'on a parlé de fond, on a parlé, écoute, voici, il y a des choses qui arrivent, il y a des situations qui arrivent dans les vies des gens qui les emmènent à arriver vers des temps comme ça. Comment une personne qui a le cœur de Christ, au lieu de condamner, au lieu de juger, dit, mais comment on peut aider des gens comme ça? Comment? Qu'est-ce qui l'a emmené à arriver là? Jésus n'est pas trop intéressé sur ton comportement extérieur, il sait que la mort, il sait que le péché emmène la mort, mais Jésus est intéressé à comment emmener ces hommes à la vie. Pourquoi je ne me tais pas quand mon âme est accablée? Parce que si le mal, à sa manière, existe, Dieu en est la première cible. Trop de personnes vivent leur vie comme si Dieu voulait leur faire mal. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu est la première cible du mal. La première personne qui est attaquée par le mal, c'est Dieu. Et où est-ce que le mal a commencé? Ma Bible me dit que c'est dans Genèse 3, 4, 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Nous sommes les auteurs du bien et du mal. Nous sommes les auteurs du bien et du mal. Et le mal provient de la chute, mais vous savez, on devrait aussi s'intéresser au bien. Parce que le bien n'est pas toujours le bien. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire là? Est-ce qu'il est en train de philosopher? Non. Comment le bien peut-il être qualifié de péché? C'était bien de sortir lépreux hors de la ville. C'était bien. C'était pas une mauvaise chose. On veut protéger d'autres personnes. On ne veut pas que les gens soient infectés, c'est bien. Mais de l'exclure sans solution, c'est mauvais. C'était bien dans la loi, parce que la loi disait que quand quelqu'un commettait l'adultère, il fallait le lapider. C'était, selon la loi de l'Ancien Testament, c'était bien. Mais ne pas avoir un cœur pour la circonstance. Et ce que je vois dans cette circonstance encore de la femme adultère, on ne voit pas l'homme qui était avec. Hein. On voit la femme, mais on ne voit même pas l'homme qui était avec. Et je crois que Dieu est un Dieu qui n'est pas juste un Dieu de bien puis de mal, mais au départ, ce n'était pas le bien ou le mal. Au départ, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et Dieu veut nous ramener à sa volonté. Alors, comment le bien peut-il être qualifié de péché? Il peut être qualifié de péché lorsqu'il est le fruit d'une intention indépendante de la volonté de Dieu. La personne qui cachait des Juifs et qui, pour une raison ou pour une autre, pendant la Shoah, reçoit des militaires nazis et pour sauver sa vie, décide de trahir ces jeunes enfants juifs qui sont cachés quelque part, elle dit la vérité, mais pour le mal. Mais pour le mal. Et Dieu nous interpelle au-delà de bien ou de mal, Dieu nous interpelle à faire sa volonté. Faisons la volonté de Dieu. Dans Nombre 23, 19, il est écrit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dans Jacques 1, 13, il est écrit, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. » Et ce lépreux comprenait cela. Il dit, « Je suis peut-être malade, je vais peut-être mourir, mais tu sais quoi, à la fin de la journée, ce n'est pas la faute de Jésus. » Je vais m'approcher de Jésus. Je vais m'approcher de Jésus. Je vais m'approcher de Jésus. Approche-toi de Jésus, quelles que soient les circonstances de ta vie. Alors le lépreux vint à lui. Et il s'est approché et il s'est prosterné. Les rabbins considéraient la lèpre humainement incurable. Et deux fois seulement dans l'Ancien Testament, on voit une guérison de lèpre. Deux fois seulement. Dans Nombre 12, 10, 15, 10 à 15 et dans 2 Rois 5, 1 à 14 avec Naaman. Et c'est les deux seules fois, cet homme connaissait sa parole et savait que la lèpre avait juste été guérie probablement deux fois. Il avait entendu parler de Jésus. Il n'avait pas vu encore. Il avait entendu parler de Jésus. Peut-être que tu es ici ce matin, c'est parce que tu as entendu parler de Jésus. Cet homme a entendu parler de Jésus. Il a dit, écoute, moi, je vais aller chercher ma dose, je vais aller chercher ce qui est nécessaire. D'ailleurs, même David, le roi David, dans sa grandeur, quand il laisse son testament à son fils Salomon par rapport à Joab, parce que Joab avait tué, son commandant fidèle, avait tué plusieurs personnes, dont Absalom, son fils. Et David laisse, si vous regardez le testament de David, c'est une lettre de vengeance carrément. Il y a des noms, et David laisse un testament et laisse à son fils tous les noms de personnes à éliminer. Un homme au cœur de Dieu, mais nous savons que nous avons tous, il y a des lieux dans nos vies où est-ce que Dieu doit restaurer, Dieu doit transformer. Et David, dans ses lignes pour Joab, il maudit la famille de Joab. Il dit que tes descendants soient tous des personnes avec la lèpre. Alors la lèpre n'était vraiment pas quelque chose de bien vu. Mais Jésus lui était convaincu qu'il devait le purifier. 2 Corinthiens 4, 17, 18 nous dit, « Car nos légères afflictions... » Quand j'ai lu ceci, j'ai dit, « Paul, parle pour toi-même. » Il y a des afflictions qui ne paraissent pas légères. Mais Paul est en train de nous dire, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point sur les choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Psaume 90, 2, c'est David lui-même qui dit, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Reconnaître que Dieu est l'ennemi numéro un du mal nous donne une mentalité victorieuse. Ce lépreux avait une mentalité victorieuse. Une mentalité victorieuse impacte notre entourage. Une mentalité victorieuse change notre vie. Une mentalité victorieuse déploie des destinées. On a besoin d'une mentalité victorieuse. On ne peut pas marcher avec une mentalité de victime. Oui, Jésus a guéri des gens qui n'avaient pas de foi. Dans les évangiles, on voit des gens qui n'avaient vraiment pas de foi, puis Jésus guérit. Jésus a guéri des gens qui avaient la foi. Jésus a guéri des gens de tout genre de cœur. Mais moi, je veux avoir une mentalité victorieuse. Tu veux avoir une mentalité victorieuse comme celle de ce lépreux, parce que ce lépreux m'apprend qu'il avait un cœur couvert de lèpre. Son corps était couvert de lèpre, mais son cerveau, à lui, était couvert de louanges. Et j'aimerais te proposer ce matin de couvrir ton cerveau de louanges. Couvre-le de louanges. Merci Seigneur. Couvre-le de louanges. Il comprenait que voir Jésus ne manquerait jamais d'éveiller l'espoir dans le cœur abattu, enténébré, asservi par le désespoir, la maladie, les intimidations de la vie. Il comprenait cela. Il avait sans aucun doute entendu parler de Jésus. Il reconnaissait sa puissance. Et il était comme Abraham. Abraham n'a pas vu des enfants, mais Abraham croyait que Dieu était capable de lui donner des enfants. Il était un peu comme cet homme qui est condamné à la pendaison, la diapo 26, cet homme qui est condamné à la pendaison. On raconte cette légende que dans les temps médiévaux, il y a un homme qui était condamné à la pendaison après avoir commis un crime odieux. Cet homme, avant qu'on l'emmène à l'échafaud, et on lui demande « Quel est ton dernier souhait? » Il dit « Mon dernier souhait, c'est de boire un bon verre d'eau. » Alors on alla très rapidement lui chercher un verre d'eau. Mais l'homme, saisi par la peur et l'effroi de la pendaison, tremblait. Alors il n'arrivait pas à boire son verre. Et le roi prit parole et dit d'une grande voix « Ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui va t'arriver, tu ne seras pas pendu avant d'avoir fini ton verre d'eau. » Alors l'homme a repoussé le verre d'eau et a dit, « Alors je ne boirai pas. » Et on dit que, comme il a pris le roi sur sa parole, il a été épargné. Et j'aimerais te dire qu'il faut prendre Dieu sur sa parole. Il faut prendre Dieu sur sa parole. Et ta parole, sa parole, et si tu fixes les yeux sur sa parole, comme le lépreux qui fixait les yeux sur la personne de Jésus, et il croyait ce qu'on lui avait rapporté. On lui avait rapporté que Jésus était un remède miséricordieux. Il savait que Jésus, il a entendu que Jésus était un remède miséricordieux, qu'il est la rédemption. Il a entendu que Jésus est une personne surnaturelle. Il a entendu que Jésus est un canal merveilleux et prodigieux qui procure une expérience bénie. Il a entendu que Jésus a une grâce inépuisable. Ainsi, sa foi s'est matérialisée. Sa foi, ce qu'il a entendu est devenu une action. Ce qu'il a entendu est devenu un style de vie. Ce qu'il a entendu est devenu des habitudes. Quel contraste! Jésus, l'homme parfait, l'homme couvert de lèpre. Sauveur plein de compassion, pécheur qui le cherche. Quelle révélation! Et c'est pour ça que ce matin, on a chanté, et on va chanter ensemble, on va le chanter vraiment pour chercher le cœur de Dieu. Je crois qu'ensemble, on est ici, c'est pas par accident si tu es ici ce matin. On va chanter « Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi, j'espère, tu ne failliras jamais! » Est-ce que tu crois cela? Ce lépreux croyait cela. Ce lépreux a dit « Non, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. » Quelles que soient les circonstances de ma lèpre, je n'aurai pas honte. Je vais crier Jésus. Je n'aurai pas honte. Quelles que soient les circonstances de ma vie, quel que soit ce que les gens disent, je n'aurai pas honte. Et pendant que les gens le regardaient, pendant que les gens se disaient, hey, attention, pendant que certains se poussaient en disant, écoute, ne le touche pas, attention, tu vas être malade. Il s'avançait. Et je vois ceci comme la louange. Je vois ceci comme quand on rentre dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais vers qui tu vas, quelles que soient tes saletés, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu as vécu la semaine, tu dis, Seigneur, je viens à toi. Quelles que soient mes blessures, je sais que toi, Seigneur, tu vas me réconforter. Je sais que toi, Seigneur, tu vas me guérir parce que toi, tu es ma joie. Alors, pourquoi je ne vais pas cesser de le proclamer? Parce que Dieu attache plus de prix à un humble vertueux qu'à un riche orgueilleux. Le lépreux, se jetant à genoux, tomba sur sa face et lui fit cette prière. S'étant approché, il se prosternant. Vous savez, il y a cette image, à la prochaine diapo, de Raoul Follereau. Raoul Follereau, un homme extraordinaire. La Fondation Follereau s'occupe des lépreux dans le monde. C'est un homme qui a dit à la situation comme « aimer sans agir, cela ne signifie rien ». Il a dit ceci aussi, il a dit, « La sainteté, c'est la grâce de faire les plus humbles des choses sous le signe de l'éternité. » Un grand homme, licencié de la Sorbonne, grande école, philo, avocat de carrière, médecin à la fin de sa vie, un homme de cœur, un homme qui a décidé de mettre sa vie pour les autres, et il a fait de grandes choses de son vivant. Et ici, ce que nous voyons au travers du lépreux, et ce que Raoul Follereau nous dit, c'est que voir la face de Dieu nous fait toujours cacher la nôtre. C'est l'attitude extérieure d'une profonde conviction intérieure. Quand on voit la face de Dieu, on s'oublie. On oublie nos intérêts. Et en s'oubliant, tout à coup, le fardeau, tout ce qui peut nous accabler devient éphémère. Regardez Ésaïe, par exemple. Ésaïe 6, 5, 8. Ésaïe est un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu intègre, qui dit ceci: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Parce qu'il a vu Dieu. Quand tu vois Dieu, tu te reconnais. Job a dit, mon oreille, au début du livre de Job, on dit que Job était l'homme le plus intègre de la planète Terre. C'est beaucoup ça, hein? C'est vraiment humble. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Job dira dans Job 42, 5, 6, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mais maintenant, mon œil te voit. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la louange que nous allons avoir ici en conclusion, et quand nous allons chanter « Christ est ma joie », nous allons dire « Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Pierre lui-même, dans Luc 5, 8, dit, tomba sur ses genoux et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis pécheur. » Dans Apocalypse, Jean dit, quand il vit Dieu, il dit, il tomba mort comme sur ses pieds. Et il posa sur lui la main. Dieu posa, Jésus posa la main sur lui et dit, ne crains pas. Quand tu vois Dieu, tu es saisi. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, si tu n'es plus saisi, ça veut dire que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Et Dieu a mis dans mon cœur, il nous faut, en tant que chrétiens, être saisis constamment. Saisis continuellement. Saisis comme un style de vie. Seigneur, saisis-moi. Seigneur, j'aimerais être comme ce lépreux tous les jours de ma vie. Et Seigneur, le Seigneur m'a dit, si tu ne t'es jamais prosterné, tu ne t'es pas encore trouvé devant lui. C'est un peu comme la chenille phalène, la prochaine diapo. Cette chenille, on dit qu'elle prend la couleur de tout ce qu'elle mange. Donc, si la feuille qu'elle mange a une couleur un peu jaunâtre, elle va devenir jaune. Et je vois cela comme nous. Le plus qu'on se nourrit de la parole de Dieu, le plus qu'on se nourrit de la présence de Dieu, le plus qu'il y a quelque chose qui se passe, et tout à coup, on a une couleur qui ressort de nous. Cet homme dégustait Jésus. Il était infusé comme ton thé, comme quand tu te verses une bonne tasse d'eau chaude et là tu rentres ton thé prend, ton eau prend la couleur du thé. Infusé. Pourquoi? Pourquoi je ne peux cesser de proclamer Dieu, même quand mon âme est accablée? Parce que la louange est une supplication qui engendre l'amour. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux. Seigneur, si tu veux, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ma foi n'est pas grande, mais si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main. Sans présomption, si tu le veux, sans doute, tu peux me rendre pur. Il supplie humblement un pauvre proscrit, banni, avec une prière, une louange. Pas beaucoup de théologie, mais une profondeur théologique. Et j'aimerais te proposer que cette phrase a deux clés essentielles pour chacune des écoles de théologie, pour chacun des chrétiens aujourd'hui, et quelle que soit la manière à laquelle tu es rentré, quel que soit ton arrière-plan, j'aimerais te dire qu'il y a des richesses dans ce que ce lépreux a dit. La première richesse, c'est la connaissance du caractère de Jésus. Connaissance. Connaissance du caractère de Jésus produit une foi intelligente en sa puissance. Si tu le peux, ou si tu le veux, je m'excuse, tu peux. L'espoir et la foi sont des valeurs objectives. Objectives. Tandis que les désirs sont subjectifs. Cet homme n'avait pas un désir, il avait vraiment une foi qui l'emmenait vers Jésus. Quelqu'un qui a un désir, c'est comme ce jeune couple que j'appellerais Mélanie et Georges. Mélanie et Georges, Mélanie aime beaucoup Georges. Mais Georges aime beaucoup son travail. Et Georges ne donne pas beaucoup de temps à Mélanie. Et Mélanie se prépare pour son mariage. Et Mélanie et Georges sont un couple qui se sont connus, ça fait une année, et vraiment commencent à se préparer peu à peu vers leur mariage. Mais le défi, c'est que Mélanie se dit, écoute Georges, j'aimerais passer plus de temps avec toi. J'aimerais que vendredi, on ait mangeance. J'aimerais avoir un certain temps de qualité ensemble. Alors, Mélanie vient voir son pasteur. et pose la question à son pasteur, comment résoudre ce problème? Et le pasteur répond, dit, ce que tu as pour ta relation, Mélanie, c'est un désir de voir Georges changer. Et ce désir doit se changer en foi. Et pour que ce désir se change en foi, Georges a besoin d'un engagement, de dire, vendredi, je te donne un temps. Jésus avait en lui la capacité de guérir. Mais très souvent, on a des désirs qui sont éphémères. Et avoir un désir éphémère, c'est quoi? C'est si Georges décide de ne pas changer ses habitudes, quel que soit le désir que Mélanie va avoir dans son cœur, ça va être très difficile pour elle d'avoir une bonne relation plus tard. Il va falloir qu'elle prie toutes les journées, qu'elle intercède, qu'elle mette ses genoux à terre. Mais Dieu nous donne le libre choix et nous le savons. Et très souvent, il y a un combat que l'être humain a avec désir et foi. Parce que la foi est une ferme assurance. C'est objectif, la foi. On a une ferme assurance à un Dieu qui ne faillit pas. Et cet homme avait une ferme assurance. Il allait, il a entendu que Jésus a guéri des gens. Ce n'était pas futile, ce n'était pas des racontars. Il y avait peut-être certaines personnes qui ont dit, écoute, moi, là, j'ai été guéri. C'est lui. Et cet homme avait cette confiance, c'était objectif. Parce qu'il connaissait Genèse 18, 14, qui dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. » Il connaissait cette parole de Romains 12, 12 qui dit « Réjouissez-vous en espérance. » Beaucoup de gens se réjouissent dans le désespoir. J'aimerais te dire « Réjouis-toi en espérance. Espère à de merveilleux jours. Sois patient dans l'affliction. » Paul, c'est une thématique de Paul qui revient jour après jour. Tu ne peux pas parler de Paul sans parler d'affliction. Sois patient dans l'affliction. Persévère dans la prière. Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Pourquoi on prie? On prie pour abonder en espérance, pour abonder du Saint-Esprit, pour être infusé du Saint-Esprit. Dans Psaume 39, 8, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? » dirait David. Et David se répond à lui-même, « En toi, Seigneur, car toi, tu es mon espérance. » Psaume 39, 7 nous parle de cela encore. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La deuxième chose qu'on voit ici, la deuxième richesse théologique, c'est reconnaître ses limites et notre besoin. Cette personne ne pensait pas être capable de se guérir par lui-même. Le défi quand on approche de Dieu, si on veut vraiment être guéri, le défi en tant qu'église locale, le défi en tant que chrétien, c'est de dire à Dieu, voici nos manquements. Voici ce que nous n'avons pas. Tu sais, il y a une réunion qu'on a ici chaque semaine où est-ce qu'on dit, OK, voici ce qui est bien, mais on va parler aussi de ce qui va mal. Parce que si tu ne parles pas de ce qui va mal, tu es dans le déni. Dieu ne te demande pas d'être dans le déni. Dieu n'a pas dit aux lépreux, proclame que tu n'as pas la lèpre. Allez! Commence à proclamer, non, il perd son doigt, là. Il y a une réalité. Et Dieu veut qu'on emmène notre mort devant lui. Il faut reconnaître. Il a reconnu ses limites et il a reconnu son besoin. Tu marches dans le péché, ça fait des semaines. Reconnais premièrement que c'est un péché. Le défi aujourd'hui, en 2014, pour certains, pas pour tout le monde, pour certains, c'est de reconnaître le péché. De dire que ça, c'est péché. Non, mais tu sais, zone grise, il n'y a pas de zone grise en Jésus. Je m'excuse. Pour nous, êtres humains, il y a des zones grises. Mais quand Jésus vient dans une vie, tout à coup, la zone grise devient claire. Jésus te montre, Jésus te dirige. Et il y a des choses, il y a certaines choses, tu vas avoir des lunettes et ce n'est pas pour nous imposer. Mais Jésus va te transformer tout doucement. Tout doucement, il y a des choses que tu vas commencer à rejeter. Il y a des choses, oui, peut-être que tu vas les garder pour un certain temps et dans ta démarche et tout ça. Mais Jésus, face à Jésus, tu vas être attiré par son amour magnétique. Et son amour va te transformer. Être pur. Il expose franchement son besoin. Il dit, Seigneur, je veux être pur dans Lévitique. Pourquoi il dit pur? Parce que dans Lévitique 16:30, la lèpre était considérée comme une impureté. Je veux être pur, Seigneur. Je suis impur. Je suis pécheur. D'ailleurs, une des choses qui va arriver quand il va être purifié, il va retourner vers les pharisiens. Mais on dit que pour que les pharisiens disent que la personne était guérie, il y avait toute une cérémonie. Ils devaient emmener des animaux, on préparait du pain, on vérifiait trois fois. Il a marché au moins 60 à 70 kilomètres pour respecter la loi. Donc, cet homme était dans une réalité complexe, cet homme était dans une souffrance angoissante, une angoisse larmoyante. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et si Jean a dit « si nous confessons nos péchés », je crois qu'il est important qu'on confesse les uns aux autres. Mais pour que les gens confessent, ça commence, la base c'est quoi? C'est le pardon. La base c'est quoi? La discrétion. La base, c'est quoi? La prière. La base, c'est quoi? Voir les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Moi, j'ai des champions ici à l'Église de l'Espoir. Je dis, je le proclame tous les jours. Je vois tous les jours, je dis, on a une Église de champions. On a une Église de gens qui saisissent le nouvel espoir. On a une Église pleine. On a une Église en feu. Pourquoi? Pourquoi il dit ça, lui? Il est sur quoi? Je suis sur Jésus. La parole de Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, toutes les choses ont commencé par la foi. Toutes les choses commencent par la foi. Même quand tu vas au travail, comme je disais la semaine passée, c'est à la foi que tu vas avoir ton salaire. C'est à la foi de ton chèque. Le jour que ton chèque ne va pas rentrer dans ton compte, ta foi va baisser. Alors Pourquoi je proclame, même quand mon âme est accablée, parce que je ne crains pas ce qui tue le corps et ce qui peut tuer mon âme, mais je crains plutôt ce qui peut faire périr l'âme et mon corps. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha. Les médecins ont essayé, le système a essayé, les pasteurs ont essayé, les papes, les archipapes ont essayé. Ça n'a pas fonctionné. Jésus le toucha. Jésus le toucha. Il a été condamné par tous, mais Jésus le toucha. Tout miracle part de « je le veux », le « je le veux » de Jésus. Quand Jésus dit « je le veux », quelle que soit la personne, quelle que soit l'entité, quelle que soit, on te dit que non, c'est pas possible, ça n'arrive pas pour les autres, c'est pas grave. Si Jésus a dit « je le veux », il y aura une manière, ça va passer. Jésus. Tout ce que je m'attends, c'est le « je le veux » de Jésus. Je suis passionné des « je le veux » de Jésus. Ou est-ce que tout le monde t'a condamné si tu as un « je le veux » de Jésus? Aïe! Alléluia! Alors, ce que tu dois rechercher comme ce lépreux, c'est « je le veux ». Les critiques fustigent, mais face au « je le veux » de Jésus. Il y a un enseignement encore là. Il y a des révélations qui nous sont données. C'est que la touche de Jésus purifie. Il le touche. La sainteté de Dieu entre en contact avec un homme complètement souillé. Dieu veut rentrer en contact avec des hommes complètement souillés. Il nous faut aller vers lui. Seigneur, voici mon défi, voici mon problème, voici mon cœur. Et avec des hommes complètement souillés, Dieu fait des champions. Il n'est pas souillé par la touche de Dieu. Parce que Jésus a été touché par les prostituées. Jésus a été touché par Zachée. Jésus a été touché par plusieurs personnes qui ne vivaient pas une vie pure. Mais c'est Jésus qui les a transformées. Jésus n'a pas peur de ta vie. Jésus n'a pas peur de tes circonstances. Jésus n'a pas peur de ton histoire. Jésus n'a pas peur de ta circonstance. Jésus, il n'y a pas une circonstance où est-ce que Jésus va s'asseoir et dire « Oh, celle-ci est trop compliquée. » Jésus est la solution de toutes les circonstances. Jésus a toutes les ressources. Et j'aime le mot que Marc utilise, et Marc l'utilise souvent, c'est « aussitôt ». aussitôt il fut guéri. Et Jésus, quand il dit « je le veux », il n'y a pas 12 étapes, là. Tu te lèves et paf, ça arrive. Cadeau du ciel. Je connais quelqu'un qui vient ici, il fumait pour plusieurs années. Quand Jésus l'a touché, il a arrêté du jour au lendemain matin. C'est vrai qu'il y en a certains que ça prend plus de temps, mais je te dis que quand Jésus dit « je le veux » et que tu t'approches de Jésus, je suis en train de te dire que Jésus est capable de transformer ta vie en un jour. Il est capable de le faire. La deuxième des choses qu'on voit avec cette parole, c'est que la parole fortifie. Cette parole lui a donné l'assurance. « Je le veux, sois pur ». Quand tu lis la parole de Dieu, ça te donne l'assurance, ça te touche. C'est pour cela qu'on vient ici. On vient ici chaque semaine. Pourquoi? Pour être touché. Seigneur, touche-moi. Moi, au début de la louange, je suis en arrière, on prie. Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Seigneur, oui, Seigneur, je prépare ces messages. Seigneur, ça nous prend du temps. Oui, mais quel que soit le temps qu'on fait, mais Seigneur, touche-moi d'abord. Je suis gourmand, je suis égoïste avec la parole de Dieu. Touche-moi d'abord. Et je crois que tout enfant de Dieu devrait avoir soif comme ça. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Ta parole touche. Et si la parole de Dieu ne te touche plus, ça veut dire que tu ne la cherches pas de la bonne manière. Parce que sa parole touche. Je le veux. Sois pur. Et quand sa parole te touche, tu peux toucher d'autres. Matthieu 10, 28 nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Et si je vais vous montrer une vidéo dans quelques instants, c'est une vidéo d'un clochard qui reçoit de l'argent, et il y a quelqu'un qui décide de lui faire un don, et il va aller dans un magasin où est-ce qu'il va déposer une somme d'argent. Je le dis parce que c'est en anglais, pour ceux qui ont un peu plus de défis avec l'anglais. Alors, il va déposer cette somme d'argent, il va dire au manager du magasin de dire qu'il a gagné une carte de loterie. Alors, il sort dehors, il lui donne une facture de loterie, et il ne m'envoie pas un email pour me dire « Pasteur, la loterie, ce n'est pas bon, là. C'est juste une illustration. » Il va dehors, il donne cette feuille de loterie et la personne rentre à l'intérieur et gagne 1000 $. Et vous allez voir qu'est-ce que cette personne va faire une fois qu'elle gagne 1000 $. Qu'est-ce qui arrive quand ton cœur est touché? Merci pour la vidéo.
Hey guys, so for the last couple of weeks, I've been noticing a homeless guy hanging around this local shopping center that I live next to. And from what people have told me is that he's a nice and respectable guy. So today, I'm going to make him think that he just won the lottery. I'm going to give him the supposed winning lottery ticket, take him to the store, and see how much money is won from this ticket. But little does he know is that this is a losing lottery ticket, and the store clerk is in on it. Hope you guys enjoyed the video.
Listen, man, I don't really have any money to give you, but I do have this winning lottery ticket. I don't really know how much I won. I can give this to you, okay?
You sure, my man?
Yeah, I could take you to the store and we could get this cash.
All right.
How's that sound?
That's cool, my friend.
Let's do this, brother.
Hello, how are you? How may I help you?
I just want to see if we won.
Oh my God. Guess what? Got $1,000.
$1,000?
You won $1,000.
You're kidding me, right? You're kidding me, right?
I'm not
kidding. Come on, man. You're kidding me. You're kidding me.
I'm not kidding you, man.
8, 9, 10. Okay. Okay, thank you. Good luck.
I want to share it, my friend.
Oh, come on. That's all yours, man.
Just share it, my man.
No, that's all yours, man.
It's right here. It would be enough for me.
It's all good.
I would like to share it with you, big guy.
You earned it. You won the lottery, man. Here. Come on, let's get out of here.
I've been doing this for a long time. A long time. Never, never, not praying has somebody do what you just did, my friend. Never.
Hey guys, so for the last couple of weeks, I've been noticing.
Merci d'arrêter. C'est vraiment ce qui m'a vraiment touché, c'est la première chose qu'il a voulu faire. Une fois qu'il a reçu 1000 $, c'est le donner. Donner. Et c'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais j'aimerais te défier de croire que quand tu fais quelque chose dans la vie des gens, il y a quelque chose qui arrive. Et il y a une chose qu'il a dit à la fin, il dit, il n'y a jamais personne qui m'a rien fait de bon dans ma vie. Il n'y a jamais personne, ça fait longtemps que je suis dans la rue, il n'y a jamais personne qui a pensé à moi comme ça. Tout ce qu'il pouvait imaginer, c'est que tu m'as touché. Aujourd'hui, tu m'as touché. Il y a plusieurs personnes qui vont être touchées dans ce lieu. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà touchées dans ce lieu. Il dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je vois ici une personne qui a décidé cette année de faire des dons et des dons substantiels pour l'Église ici. Pourquoi? Parce que Dieu a touché son cœur au travers de cette Église. Elle dit, non, moi, Dieu m'a tellement touché que tous les mois, il y a quelque chose que je vais faire pour vous. Il y a quelque chose. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le grand Dieu te touche. Le grand Dieu veut te toucher. Et dans sa parole, si tu as besoin de réconfort, dans Psaume 46, 1, il est écrit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 145, 18 nous dit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Tu as besoin de direction, peut-être? Il est écrit dans la parole de Dieu, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Tu as besoin d'aide financière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 111, 5 nous dit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alors, si tu penses que Dieu ne se souvient pas de son alliance, j'aimerais te dire aujourd'hui, et ceux qui le croient avec moi, vous pouvez dire amen, que Dieu se souvient toujours de son alliance. Amen. Prière exaucée. Job a dit ceci, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Psaume 91, 15 nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. C'est le fun ça. Je dis toujours que Dieu n'est pas comme certaines des compagnies qui disent que ton appel est important. Dieu répond. Tu n'as pas à attendre. L'autorité, il a l'autorité. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alors, je sais qu'en Christ, j'ai l'autorité. Je sais que si je suis en Christ, il me donne l'autorité. Il me donne les capacités. Il me donne la connaissance. Il me donne les habiletés. Et jour après jour, j'avance de gloire en gloire. Colossiens 2, 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Hein, on te disait que la banque CIBC te disait que tu avais tout pleinement en la banque. Non, tu as tout pleinement en Christ. Puis je ne fais pas une mauvaise publicité, CIBC, bonne banque, ils sont toutes des bonnes banques. Mais on a tout pleinement en Christ. Il faut que je fasse attention. De nombreuses bénédictions. En lui, on a de nombreuses bénédictions. Psaume 28, 8 nous dit, l'Éternel est la force de son peuple. Hey, ce n'est pas la mitraillette qui est ta force. C'est l'Éternel. Ce n'est pas ta job qui est ta force, c'est l'Éternel. Il est un rocher pour toi. L'Éternel donne la force à son peuple. C'est juste quelques minutes, c'est juste pour vous dire comment la parole de Dieu, c'est bon. La vie éternelle, pour la vie éternelle, Jean 3, 16, et ça, vous le savez, car Dieu, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette déclaration contient deux enseignements, elle touche. La touche de Jésus, sa parole fortifie. Et un troisième, sa puissance délivre. Sa puissance délivre. Aussitôt, la lèpre quitta et il avait une joie. Michée 7, 19 nous dit, « Il aura encore de la compassion pour nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. » Je n'ai pas besoin de savoir comment profond c'est la mer. Je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que Dieu va les emmener, mais tout ce que je sais, c'est qu'il va tout mettre au fond de la mer. Tout mettre au fond de la mer. Loin de moi, il va me délivrer. Et cet homme délivré, cet homme débarrassé de ses tracas, débarrassé de son fardeau, cet homme plein de joie qui réalise, wow, qu'est-ce qui m'arrive là, mes doigts? Wow! Tu sais, quand tu as un miracle comme ça qui arrive dans ta vie, tout à coup, tu as un regain d'espoir. Peut-être qu'il devait marcher 70 km. 70 km, il a fait ça peut-être en 15 minutes. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu agit, pour ça je dis, Seigneur, touche ton peuple encore une fois, touche ton Église encore une fois, qu'un nouvel espoir chaque dimanche, Seigneur, que les gens soient touchés, parce que quand les gens sont touchés, moins 16, moins 19, neige, pas neige, soleil, pas soleil, vacances, pas vacances, on se connecte. Se connecte à Dieu. Quand les gens sont touchés, et on n'a pas besoin de forcer les gens, en tant que prédicateur, on n'a pas besoin de forcer les gens. Ce n'est pas la culpabilité que je dis ici en avant, c'est un esprit de conviction. Quand Christ est dans la place, il y a quelque chose qui se passe. Du temps où est-ce que j'étais jeune, adolescent, on dirait Christ est dans la place, tout baigne. Tout va bien. Et la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est déclare. Et c'est ce que nous allons faire. En conclusion, nous allons déclarer. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Pourquoi il dit, garde-toi de ne pas dire à personne? C'est parce que Jésus voulait continuer son ministère. Vous allez voir que qu'est-ce qui va arriver? Il va tellement parler que Jésus ne peut plus être dans la ville parce qu'il est tellement demandé, premièrement. Et deuxièmement, quand il attire une foule, les pharisiens ne sont pas très contents parce qu'il n'y a plus personne dans leurs églises. Tout le monde va vers Jésus. C'est le problème de la popularité. Vous savez, on est une jeune église et je suis content parce que dans la jeunesse, on voit les gens qui sont fidèles. On voit ceux qui aiment Dieu. On voit ceux qui sont fidèles à la vision et tout ça. Parce qu'un jour, l'église va prendre essor. Puis quand l'église va commencer à grandir et tout ça, bien, il y aura d'autres combats. Il y a une autre réalité. Et Jésus est face à cette réalité. Il vit cet essor où est-ce qu'il y a tout un succès qui arrive. Ceci dit, il doit le gérer. Il doit gérer ce succès parce qu'il est venu pour une mission. Il ne peut pas être crucifié après 2 ans de son ministère. Il doit être crucifié pour un temps. Jésus avait un agenda. Il y a quelqu'un qui m'a dit au collège biblique, il y a 2 livres qui sont importants pour toi, ta Bible et ton agenda. Ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Jésus avait un agenda. Il y avait un temps précis, des choses qu'il devait faire. Jésus voulait éviter les malentendus. Jésus ne voulait pas de la popularité rapide parce qu'il avait peur que les gens disent, écoute, on va le proclamer roi. Et pourquoi il envoie vers les sacrificateurs? Parce que Jésus respecte la loi. Et Jésus dit, tu vas être un témoignage pour eux. Et quel genre de témoignage il devient? Un témoignage convaincant ou un témoignage à charge? Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu es un témoignage convaincant ou un témoignage à charge. Ne sois pas blessé si tu témoignes et certaines personnes sont réticentes et certaines personnes te rejettent. Parce que qu'est-ce qui arrive quand Jésus rentre dans une vie? C'est soit qu'il est convaincant, soit qu'il a un témoignage à charge. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle pour ceux qui la reçoivent. Mais pour ceux qui ne veulent pas la recevoir, tout à coup, elle devient condamnation. Ce n'est pas toi qui condamnes. C'est parce qu'ils ne la reçoivent pas. Alors, il s'en allait pour dire, et les pharisiens, ils s'en vont avec sa famille, des gens qui l'ont connu, les gens qui l'ont vu. Écoute, ils savaient qu'ils avaient plusieurs témoins qui vont dire qu'il avait la lèpre. Peut-être le prêtre de la synagogue, ils vont l'emmener là-bas, et à Jérusalem, on sait que ça arrivait à Jérusalem. Et avec des brebis pour le sacrifice, et en même temps, on allait témoigner. Alors, devant ce témoignage-là, vous savez, quand on dit, écoute, là, il était rejeté, il n'était pas dans la synagogue, ça fait tel nombre d'années, et regardez comment était sa peau, et je ne sais pas si dans ce temps-là, il n'y avait pas de photo, peut-être qu'il y avait une peinture de lui avec la lèpre. Et avec toutes ces preuves-là, à la fin, les pharisiens concluaient que la personne était guérie. Maintenant, quand Jésus te purifie, il était vraiment pur. Hein? Quand il est arrivé, il avait une peau de bébé. Et quand il est entré là, juste à le voir, je suis certain que les pharisiens diraient, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais nous savons que certains de ces pharisiens, même ayant entendu des soldats romains dire qu'ils ont vu des anges, ont payé pour dire, ce n'est pas vrai. L'incrédulité. Et il est allé. Et je le comprends. Il y a certains théologiens disent qu'il a désobéi à Jésus en parlant à tout le monde. Mais entre moi et vous, là, ça fait tout ce temps de maladie. Tu essaies de ne pas le dire. Essaye. Et quand Dieu te délivre de certaines choses, là, Seigneur, c'est comme une deuxième punition que tu me donnes de ne pas le dire. Il devait parler. Et je crois que Jésus savait qu'il allait parler. Et il est allé et il a proclamé. Il a proclamé. Ayant expérimenté la puissance de Jésus, l'homme est habile. Il est capable d'accomplir les prescriptions de la loi. Dans Romains 8, 1, 4, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Quelle bonne nouvelle! En Jésus, il n'y a aucune condamnation. Aucune. Ceci me rappelle ce peintre Leonardo da Vinci, qui est reconnu, il a fait une photo pour le duc Milan Ludovico. Et c'est à la prochaine diapo, je pense. Et cette peinture est reconnue. Beaucoup, plusieurs personnes connaissent cette peinture. Et dans cette peinture, au départ, il y avait une coupe qui était un peu plus étincelante, qui prenait un peu plus d'attention. Alors, quand Leonardo da Vinci a demandé à Ludovico, je m'excuse, quand il lui a demandé de voir la peinture, Ludovico lui a dit, « Écoute, j'aime beaucoup ta peinture, mais ce que j'aime beaucoup encore, c'est la coupe. C'est une coupe brillante, la coupe que Jésus tient. » Et on dit, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est une légende autour de cette peinture, mais on dit que Leonardo da Vinci a dit qu'il a fait quelque chose. Il a tout de suite changé la coupe. Et il a pris une coupe qui était moins étincelante parce qu'il voulait que le centre de l'attention soit Jésus. Quand Jésus fait des choses dans notre vie, il devient tout à coup le centre de l'attention. Et je vois ce lépreux, « Hey Jésus! » Jésus est devenu tellement le centre de l'attention que Jésus ne pouvait pas rester dans une ville. En conclusion, Diogène le cynique, bien que son nom est cynique, il a dit quelque chose de bien. Il a dit, « L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. » Et je crois qu'aujourd'hui, la dernière chose qui peut mourir en toi, c'est l'espérance en Christ. Dans Hébreux 6, 19, il est écrit, « C'est bien lui, Christ, qui est notre seule espérance. » Alors, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Je terminerai par cette histoire de Ole Bull. Et je m'excuse, mon norvégien n'est pas fantastique. Diapo 52. Cet homme était reconnu, c'est un bon violoniste. Et on dit qu'il s'est perdu une fois dans le bois, en Norvège. Pour s'en aller dans une autre ville, il était bon violoniste, mais il n'avait pas encore un GPS. Alors, il s'est retrouvé dans la maison de quelqu'un dans le bois, et cette personne avait un violon, comme tout par exemple, un vieux violon, et préparait la soupe. Cette personne, dans ce temps-là, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'Internet et tout ça. Alors, on pouvait entendre parler des gens, mais ne pas connaître leur visage. Il savait peut-être c'était qui, Ole Bull, mais il n'avait pas fait le lien entre lui et le violoniste. Et à un moment, il préparait une soupe juste pour qu'il soit réchauffé, parce que la Norvège est un pays assez froid. Et il a sorti son violon pour jouer du violon un peu à l'invité. Mais il ne jouait pas aussi bien que ce maître violoniste. Et le maître violoniste a dit, « Écoute, est-ce que tu penses que je pourrais jouer ton violon? » Le monsieur a dit, « Ah, tu sais, moi, ça m'a pris comme 30 ans pour être capable de faire ce que je suis en train de faire présentement. » Il dit, « Bien, je vais essayer. » Quand le monsieur, Ole Bull, a pris le violon, c'était juste fantastique, à tel point que le monsieur en avait des larmes aux yeux. C'est tellement beau. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu laisses Dieu dans la louange, si tu te concentres sur lui, et si tu dis, écoute, je vais te louer même quand mon âme est accablée, tu vas être comme ce violon. Tu vas être comme ce violon. Alors, je vais inviter Pierre à revenir. Puis on va aller dans la communion, mais on va aller dans la communion, vraiment dans la louange aujourd'hui. J'aimerais qu'on ait avec ce chant, « Christ est ma joie ». Christ est ma joie. Dieu m'a mis cela à cœur parce qu'en Christ, dans notre passé, nous étions morts par nos péchés. Mais dans notre présent, nous sommes rendus à la vie. Dans notre passé, nous marchions selon le monde, mais aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous étions esclaves de la chair, mais aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Nous étions enfants de colère, mais aujourd'hui, nous sommes assis. Nous étions sans Christ, sans espoir, Mais aujourd'hui, Christ a créé des Christ en nous. Parce qu'en Christ, je suis un être nouveau. En Christ, je suis une nouvelle nature. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous étions privés du droit de cité. Nous sommes rapprochés. Nous étions étrangers. Nous sommes faits un. Nous étions sans espérance. Nous sommes renouvelés. Nous étions sans Dieu. Nous sommes réconciliés. Nous étions éloignés. Nous avons du succès et nous avons accès à sa présence. Nous étions ennemis. Nous sommes des gens de la maison, édifiés, bien coordonnés dans l'habitation de Dieu. Alors, on va se lever, on va louer le Seigneur. Élevons nos voix ensemble. Alléluia.
Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes un espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.